Premier réseau professionnel régional, le MEDEF Occitanie, multiplie les actions en région pour aider les entreprises à gagner en compétitivité et leur faciliter l'accès à tous les leviers de croissance. Avec sa présidente, nous faisons le point ce matin sur les grands chantiers de la rentrée auxquels le MEDEF Occitanie prend part. Bonjour Sophie Garcia.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Avec joie. Pour commencer Sophie Garcia, donnez-nous quelques mots, quelques nouvelles de la santé des entreprises de notre région.
Alors l'Occitanie est de la taille quasiment d'un pays. Donc je dirais les entreprises d'une façon générale ont à la fois des inquiétudes et à la fois, de par toutes les crises que nous traversons, et à la fois des carnets de commandes qui sont plutôt pleins. Donc nous jonglons et on essaie de s'adapter à toutes ces contraintes et en même temps toutes ces perspectives.
Un des grands chantiers de cette rentrée, c'est la réforme de l'assurance chômage. Dimanche, le ministre du Travail a indiqué que la concertation reprendrait dans à peu près une dizaine de jours. Olivier Dussault a écarté l'idée de diminuer le montant des allocations, expliquant, je le cite, que dans une période où on protège le pouvoir d'achat des Français, ça n'a pas de sens de baisser une indemnité. Alors, est-ce que ne pas toucher au montant des allocations, c'est une bonne idée, à votre avis, alors que, on le sait bien, les entreprises peinent à recruter ?
Alors, on n'en est pas à la conclusion pour l'instant.
Oui.
Le ministre du Travail, effectivement, a émis quelques idées, mais la première ministre en a émis d'autres qui nous vont mieux, qui sont tout simplement, en fait, de s'adapter à la conjoncture du pays. C'est un modèle qui existe d'ailleurs au Canada. Quand le pays a besoin de recruter à des emplois qui sont non pourvus, comme c'est le cas en ce moment, à ce moment-là, les règles peuvent être plus rigides. Et inversement. Et je dirais que c'est un système plus juste. Il sera jamais à 100% comme on le souhaiterait, mais en tout cas, en ce moment, on a des soucis majeurs de recrutement, donc c'est un des leviers d'inciter à travailler plutôt que de travailler par intermittence ou moins travailler. C'est tout simple.
Tout simplement. Alors Olivier Dussault n'a pas exclu que cette réforme de l'assurance chômage puisse se faire région par région ou bassin d'emploi par bassin d'emploi. Au MEDEF, vous avez, en tout cas en Occitanie, forte de 14 MEDEF territoriaux et vous me le disiez, 24 secteurs professionnels. Qu'est-ce que votre organisation patronale va défendre pour les entreprises d'Occitanie ?
Vous savez, on est très pragmatique. On défend la simplicité. Il nous paraît, et on l'a dit au gouvernement, quasi impossible de travailler au niveau d'un bassin d'emploi ou d'un département. Comment fait-on quand on est entre les deux ? Donc, restons sur des choses simples. Si, comme c'est le cas à l'heure actuelle, sur l'ensemble des secteurs d'activité, de Bac-2 à Bac-10, on ne trouve pas, dans ces cas-là, d'une façon générale, on peut durcir certaines règles et permettre aux personnes de pourvoir ces emplois-là et nous de fonctionner.
Et donc il faut plutôt faire fluctuer la durée d'indemnisation de cette assurance chômage.
Généralement, c'est effectivement sur la durée plutôt que sur le montant que ça se joue. Et ce qui paraît logique.
Oui, bien sûr. Geoffroy Route-Bézieux, le président du MEDEF national, disait « On a un système d'assurance chômage qui, dans un certain nombre de cas, n'incite pas, quand le marché de l'emploi est favorable, à reprendre un emploi. » Vous partagez cet avis ?
Oui, c'est tout simple. En fait, on charge des droits, on travaille, on a droit ensuite à être payé pour faire autre chose, mais pas dans une entreprise, que ce soit refaire sa maison, ou que ce soit faire des loisirs, ou s'occuper de ses enfants, moi j'ai pas de souci par rapport à ça. Et ensuite, quand on n'a plus de droits, on revient. Ça crée un souci. Et on peut pas en vouloir aux personnes. C'est un système qui existe. Simplement, ce n'est pas un système qui est très vertueux, et je dirais pour personne, parce que ça crée comme ça des ruptures.
Oui. Le MEDEF Occitanie, que vous présidez depuis bientôt 5 ans, s'engage résolument dans la voie de la transition écologique. Il veut parvenir à une sobriété énergétique. Comment cela va-t-il se faire ?
On n'a pas attendu ni la crise énergétique, heureusement, ni les injonctions de notre première ministre pour aller dans ce sens-là. Ça fait déjà longtemps qu'on travaille sur les innovations. Ça passe déjà par ces systèmes de production innovants qui nous permettent d'utiliser et d'émettre beaucoup moins de CO2. Là, tout ce qui est mobilité, les transports, mais ça fait quand même longtemps. C'est pas d'aujourd'hui qu'on parle du train à hydrogène, de l'avion à hydrogène, des moteurs pour les voitures et bus et compagnie sous toutes leurs formes. Ça, c'est bien des innovations qui viennent des entreprises. Maintenant, là, on parle de sobriété. C'est une crise énergétique. Là, c'est un autre volet, si je puis dire, qui est, on est en état de crise. Il faut trouver des solutions. On nous a demandé de réduire de 10% notre consommation d'énergie, mais on y est tout à fait favorable. Et je vais même vous dire...
Ce sera possible, ça.
On pense que c'est tout à fait possible, oui. D'abord, là aussi, parce que quand on a ces factures énergétiques qui s'envolent, forcément, c'est pareil, on n'a pas besoin d'un discours. Je veux dire, comme tout à chacun, on fait attention à notre consommation. Et oui, on a regardé, et même sur un plan national, en interrogeant nos branches professionnelles, et particulièrement celles qui sont qui consomment beaucoup d'énergie, comme l'industrie. Oui, c'est tout à fait possible, en revoyant les horaires d'utilisation des machines, en utilisant également de gérer la consommation, que ce soit de tout ce qui est énergie.
Du chauffage, mais aussi des machines, comme vous dites.
C'est beaucoup la production, hein,
oui, c'est
qui peut être inquiétante, puisque on a là un prix qui n'est pas sur lesquels il n'y a pas de bouclier. C'est le terme qui est employé, en tout cas, pour le bouclier tarifaire pour les ménages, qui existe pour les toutes petites entreprises et qui a été reconduit, on le salue, en 2023, mais qui n'existe pas sur les gros consommateurs. Et on a un prix, pour vous donner une idée, du mégawattheure, hein, désolé d'utiliser ces termes un petit peu techniques, mais qui est passé de 85 à peu près euros il y a un an à 1000 euros.
Oui.
Donc on est sur un rapport x10.
Donc les entreprises n'ont pas le choix, en fait.
Elles n'ont pas le choix. Et là, on a quelques craintes, encore une fois, sur des secteurs particuliers et des entreprises qui sont très consommatrices, y compris en région. J'en ai une en tête en Ariège, qui pense éventuellement à devoir stopper sa production parce qu'elle ne pourra pas payer sa facture. Donc là, on est extrêmement vigilant et on travaille avec le gouvernement pour voir comment on peut éviter ces arrêts. Mais on sait qu'il y en aura, de toute façon. Pas énormément, mais il y en aura.
Et pourtant, dans un contexte de réindustrialisation, puisque à la faveur de cette crise sanitaire, on a réalisé qu'il fallait rapatrier un certain nombre de savoir-faire, est-ce que cette exigence de sobriété énergétique est compatible avec cette exigence de réindustrialisation?
Alors, à l'instant où on parle, si on doit faire les deux en même temps, c'est un petit peu compliqué. Mais comme toujours, c'est une question de crise, donc ça doit être ponctuel et surtout... Et surtout, ça doit nous permettre, et là c'est même au niveau de l'Europe, de revoir la tarification et la façon. Je pense qu'il n'y a pas un auditeur aujourd'hui, ou très peu, qui sont capables d'expliquer comment sont fixés les prix. À la fois, on parle d'électricité, mais également du gaz,
oui, bien sûr,
qui est indexé sur l'électricité. Oui. Donc là, c'est au niveau de l'Europe qu'il faut revoir les règles, et je dirais qu'une crise comme ça doit pouvoir amener ce type de réflexion et surtout d'action.
Et une réflexion aussi peut-être sur la négociation des contrats d'énergie.
Alors c'est toujours pareil, c'est-à-dire que on a ouvert à la concurrence, c'est peut-être bien, mais dans un système qui est tellement complexe qu'une entreprise, en tout cas une PME, qui négocie aujourd'hui un contrat, je ne crois pas qu'elle se rende compte, qu'elle sache, qu'elle comprenne tout ce que ça peut engendrer. D'où le besoin de simplifier. Pour éviter d'avoir une facture ne doit pas pouvoir être multipliée par 10. Ça veut dire que le système a un souci. Donc là, on va le gérer ponctuellement. Il va y avoir, de toute façon, des décisions. C'est obligatoire si on veut, mais pas arrêter. Mais il faut surtout que ça permette d'en tirer les leçons.
Oui, il faut que ça rende service pour l'avenir.
Bien sûr. Sortons par le haut.
Sortons par le haut de la crise.
Exactement.
Voilà. Au début de l'été, les eurodéputés ont trouvé un accord sur la mise en place d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. C'est une disposition que le MEDEF a le premier appelé de ses voeux. Outre la nécessité d'encourager les transports les moins polluants, comment une telle mesure va-t-elle permettre une meilleure compétitivité des entreprises et notamment pour celles d'Occitanie?
Alors là, c'est tout simple, hein. C'est que les règles sont absolument pas les mêmes. On a des règles, des normes françaises, on a des normes européennes et puis on a le reste. Bon, on va être très clair. Quand on achète plus et même quand on augmente le pouvoir d'achat, qu'est-ce qui se passe? C'est d'abord les importations et souvent de Chine qui augmentent. Donc avec des produits qui arrivent moins chers, qui sont achetés par les consommateurs, on peut le comprendre, mais qui sont beaucoup plus polluants. Donc il y a un moment où la France avec ses petits bras va pas y arriver toute seule. Et le fait d'avoir un bloc européen qui disent, ben, nous, à nos frontières, on a, alors on a appelé ça une taxe carbone, parce que je pense qu'on peut comprendre comment le principe, un produit qui arrive de l'extérieur, qui est foncièrement polluant, doit avoir une taxe qui fait que quand il va rentrer à l'intérieur de nos frontières, il sera en tout cas pas moins cher que des produits qui sont plus vertueux.
Donc là, il y aura une taxe pour cette pollution, en fait.
Absolument, et on l'a demandé bien avant la crise énergétique, cette taxe carbone, et elle fait son chemin. Là aussi, on peut espérer que la crise accélère le processus et permette maintenant de passer à l'action.
Et pourrait-on imaginer que cette taxe carbone puisse justement aider les entreprises françaises
Elles vont de fait aider les entreprises françaises. Il faut savoir quand même, il faut bien avoir en tête, et là on travaille sur la réindustrialisation, y compris en Occitanie, c'est que produire plus vert, c'est produire plus cher. C'est un fait. À partir de là, il faut effectivement, et donc d'où l'importance de travailler public-privé, pour avoir des conditions qui permettent aux entreprises privées de produire localement, et en même temps de sortir des produits qui vont pouvoir être achetés par des consommateurs qui peut-être vont être prêts, que ce soit des ménages ou des entreprises, à payer un petit peu plus cher.
Oui, mais jusqu'où?
Ils vont pas payer, voilà, mais jusqu'où? Et il y a une réalité après économique du portefeuille.
Oui, c'est ça. Le MEDEF Occitanie et le ministère des Armées ont conclu une convention destinée à créer des synergies entre les mondes économiques et militaires. Et pour illustrer ce partenariat, prenons l'exemple de ce qui s'est passé la semaine dernière à Tarbes. Une centaine de chefs d'entreprise ont été reçus au 35e régiment d'artillerie parachutiste. Et quel était l'objet de ces échanges?
Alors, on a conclu en 2021 une convention Sud de France, donc qui va de Marseille jusqu'aux Hautes-Pyrénées. Et on ouvre notre réseau, donc l'exemple que vous citez est tout à fait exact la semaine dernière, pour avoir des relations beaucoup plus fortes entre l'armée et l'entreprise, tout simplement parce que l'armée a besoin de réservistes, qu'ils soient opérationnels ou citoyens. Et ils ont également des gens qui sortent de l'armée, soit un petit peu de façon plus précoce que prévu parce qu'ils sont blessés. Donc on travaille avec eux sur ces questions-là, ou parce qu'ils ont une carrière qui est plus courte. Et donc ensuite, comment ils rejoignent le civil? Nous avons des besoins de recrutement, mais de toute façon, je dirais, c'est général, on emploie des gens. Donc on se rend compte que ces deux réseaux, si je puis appeler ça comme ça, en tout cas l'armée et la société civile des entreprises, ont peu de relations, pas assez de relations. Et simplement en mettant en relation nos réseaux, et on le fait de façon très concrète, c'est pas juste signer une convention, c'est ce qu'il y avait dans les Hautes-Pyrénées la semaine dernière, où des chefs d'entreprise accueillent du personnel de l'armée, et on discute, on voit quels sont les besoins mutuels, on se met en relation, et on recrute potentiellement du personnel de l'armée, et inversement, l'armée peut comme ça, recruter dans nos entreprises, et on y est tout à fait favorable, du personnel pour les réserves opérationnelles et citoyennes. Et ça va complètement dans le sens, actuel, où le personnel de nos sociétés ont aussi besoin d'avoir, et nos entreprises auront aussi besoin d'avoir du sens.
Un engagement qui a du
et
sens.
Et un engagement.
Oui, tout à fait. Sans compter les emplois des conjoints aussi, parce que souvent dans les petites villes c'est compliqué, et donc ces liens avec les entreprises peuvent permettre de telles embauches.
Absolument. Alors que ce soit le conjoint ou que ce soit soit le militaire effectivement est arrivé, et puis ce sont des périodes qui sont assez courtes, donc on accueille le conjoint et on a toujours on peut avoir, y compris dans les zones les plus reculées, du travail pour le conjoint à condition de le savoir. Parce que c'est pas, et ça je l'ai vu avec les deux généraux avec qui j'ai signé la convention, que malheureusement, ils n'ont pas forcément, eux, quand ils arrivent, ce qui est normal, les relations avec les entreprises locales.
D'où l'intérêt de cette convention. Merci beaucoup Sophie Garcia d'être venue ce matin dans les studios de Radio Présence.
Merci à vous, c'était un plaisir.